Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Manarino qui vient de débouler à distance. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est comme ça qu'on dit.
Bonjour à tous. Oui, je déboule dans cette émission.
Voilà. Confinement oblige et vous démarrez votre journal de la culture Hélène par du cinéma. Ah, une date, une info positive, une date de réouverture des salles se précise.
Et oui Philippe, alors rien de définitif. Mais évidemment la décision sera prise véritablement fin mai. Franck Riester, le ministre de la Culture, a affirmé sur France 2 hier qu'il travaillait avec tous les professionnels de cinéma à une réouverture des salles début juillet. Alors depuis la fermeture des salles, on avait entendu une ouverture en septembre ou pas avant janvier 2021. Donc nouvelle plutôt rassurante. Évidemment des salles obscures qui rassemblent toutes les mesures sanitaires avec un nombre de spectateurs contrôlés. Je rappelle que Franck Riester avait déclaré qu'il souhaitait ouvrir toutes les salles de cinéma de France en même temps, notamment, vous savez, pour les coûts de distribution. Cette question n'est pour l'heure pas encore tranchée.
Et puis on reste dans le cinéma, le Festival du film francophone d'Angoulême devrait être maintenu.
Et aux dates prévues, du 25 au 30 août 2020, le festival de Dominique Besnéard et Marie-France Brière échapperait donc à l'annulation. Mais ça sera tout de même une édition exceptionnelle. Pour la programmation, rien n'est encore véritablement acté, mais il pourrait y avoir en avant-première la projection du film de Wes Anderson, The French Dispatch, normalement présenté à Cannes. La semaine de la critique qui se déroule habituellement au Festival de Cannes également dévoilera son palmarès au Festival d'Angoulême. Vous savez, c'est ce fameux label Cannes. Oui. Mis en place par Thierry Frémaux, présent dans plusieurs festivals. Le festival d'Angoulême comptera toujours une sélection de 10 films pour le palmarès. Il y aura un système de réservation, comme ça, pas de file d'attente dans les salles de cinéma. Les règles sanitaires vont être mises en place. Alors c'est la 13e édition du festival du film francophone d'Angoulême, mais les organisateurs préfèrent l'appeler édition 20-20, parce que 13, ben, ça porte malheur.
Et pendant ce temps-là, on semble se diriger vers un report pour les Oscars 2021.
Elle avait déjà modifié son règlement. Nous l'avions évoqué, Philippe, en ce qui concerne surtout l'éligibilité des films suite à la crise sanitaire, comme par exemple les films sortis sur des plateformes pourraient concourir à cette cérémonie. Alors selon Variety, la cérémonie des Oscars pense repousser la date de l'édition 2021 qui était programmée le 28 février prochain. Je rappelle que les cinémas américains, comme les autres d'ailleurs, sont fermés depuis 2 mois et tous les tournages sont également à l'arrêt.
Oui, si j'ai bien compris, c'est pas la cérémonie en elle-même qui pose problème, mais la sélection auparavant. Une nouvelle date pour la fête de la librairie indépendante.
Alors elle a lieu chaque année en avril depuis 25 ans dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors évidemment c'était compliqué de la maintenir. Elle se déroulera donc le 13 juin prochain. Cet événement réunit 480 libraires indépendants français, belges, luxembourgeois, suisses, francophones. Tous souhaitent cette année que la fête soit tournée vers le jeune public.
On passe à la musique. La SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SACEM donc va rémunérer les concerts en ligne.
Pour soutenir les artistes, la SACEM a lancé déjà un plan d'urgence de 43 millions d'euros donc pour ses sociétaires. Elle annonce également qu'à partir du 1er juin, mais rétroactivement dès le 15 mars 2020, tout concert ou performance donné en ligne par un artiste sociétaire de la SACEM sur YouTube, Facebook et Instagram sera désormais rémunéré. Alors il y en a eu des artistes qui se sont produits en live, Francis Cabrel, M, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, entre autres. La rémunération se basera sur la durée du live et sur le nombre de vues.
Une chanteuse qui annonce un nouvel album.
Et oui, et cette nouvelle est royale.
Ah oui.
Petite blague.
C'est le titre de la chanson.
Mais je sais, bon, c'est un petit jeu de mots. En plus, avec un titre anglais.
On prononce Lord ou Lordi?
On prononce Lord.
L-O-R-D-E. Oui.
Exactement, la chanteuse a annoncé son 3e album en promettant que ça allait être, je cite, vraiment génial. Artiste néo-zélandaise, assez discrète. Bah oui, c'est simple, c'est efficace. Elle avait mis tout le monde d'accord avec son titre donc Royals en 2013. Ses fans sont donc ravis de son retour. La chanteuse a également fait part de son envie de remonter sur scène. Alors elle finit de travailler sur son nouveau disque en direct de chez elle et par FaceTime avec ses équipes.
Et puis on termine ce journal Hélène avec un ticket gagnant.
Celui de la loterie organisée par l'ONG CARE afin de fournir un accès à l'eau potable en Afrique. En achetant un billet à 100 euros, vous pouviez gagner un tableau de Picasso d'une valeur d'1 million d'euros. Alors l'initiative s'appelle Un Picasso pour 100 euros. Plus de 51 000 personnes ont participé et ils ont récolté plus de 5 millions d'euros pour l'ONG. Et la gagnante est une Italienne. Elle repart donc avec la toile Nature morte peinte en 1921. Elle était depuis peu exposée au musée Picasso dans le 3e arrondissement de Paris.
Ça fait vraiment rêver pour 100 balles un Picasso à 1 million. Ouais. Merci beaucoup Hélène. Et tout le monde peut le faire parce que c'est caritatif. Ça reviendra certainement l'année prochaine. À demain, ça sera génial encore. Dans un instant, on va recevoir Michel-Édouard Leclerc. On va parler de la 7e édition du festival Culturissimo qui sera cette année à regarder depuis chez vous. Mais d'abord, musique avec les Beach Boys. Le groupe a décidé de se reformer à l'occasion de ses 60 ans. Pour célébrer cet anniversaire, on écoute leur titre culte Good Vibrations sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Je vais très très bien, c'est à vous qu'il faut poser la question. Comment allez-vous?
Bah, je vais bien, vous avez passé les musiques des Beach Boys, ouais. C'est ma génération, c'est moi, j'adore. Et voilà, je vous téléphone de Bretagne avec cette application.
Ouais.
Et on va parler de Culturissimo.
Exactement.
C'est vrai que c'est un festival que je voulais dans chaque ville de France, dans des beaux lieux réservés avec les élus, avec les collectivités locales. Mais ouais. Là, c'était pas possible.
Exactement. Alors, je précise que le festival existe depuis 2014. Et c'était 75 villes de France dans lesquelles vous rendiez. Comment vous allez faire cette année? Que va-t-il se passer?
Eh bien voilà, on va prendre la baguette magique de Merlin l'Enchanteur, Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Ouais.
Et tous les comédiens fidèles, les comédiens de la Comédie Française, mais aussi des artistes, des chanteurs, des concertistes, ont enregistré dans ouais. des conditions du confinement, hein, mmh. comme on dit, en toute sécurité. Et tout ça est en ligne au fur et à mesure, le lundi, le mercredi, le vendredi. On rajoute des concerts ou des séances de lecture sur le site culture.leclerc.
Ouais.
Et voilà, c'est parti.
Ouais. Alors, il y a un très impressionnant, c'est le casting.
Oui, on a vraiment la générosité de comédiens très fidèles. Enfin, tout le monde connaît Hippolyte Girardot, Stéphane Fraisse, Daniel Mesguich, Dominique Pinon, des femmes aussi, Irène Jacob, Judith Henry. Ils viennent à tous les festivals. Je crois que Hippolyte, je l'ai vu partout, à Landerneau, il est allé à l'île de la Réunion.
Ouais.
Il se donne au public, hein. C'est vraiment de la générosité.
Je vais en citer encore, vous n'avez pas cité tout le monde. Il y a Nicole Garcia, Clotilde Courau, Marianne Denicourt, Bruno Puzzoulou, Judith Henry, Dominique Blanc, Didier Sandre, Laurence Stocker de la Comédie Française, Jacques Weber. C'est juste dingue d'arriver à rassembler toutes ces personnes aussi diverses.
Oui. Ça témoigne aussi de leur part d'une volonté d'aller comme ça auprès du public, parce que là c'est digital, c'est dans un théâtre, mmh. mais usuellement ils vont en province, dans nos provinces, chez nous, et c'est vraiment très sympa de leur part. Ils viennent lire des très beaux textes, et cette année d'ailleurs il y a Olivia Ruiz aussi qui vient.
Ah bah tiens,
il y a
justement, Yann Colette. Je vais le raconter, ouais. Je m'attarde une seconde au sujet d'Olivia Ruiz, parce qu'elle est dans votre festival, dans un exercice qu'on ne lui connaît pas. Elle sort son premier roman qui s'appelle La commode au tiroir de couleur, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Il va bientôt sortir en vrai, en livre. Et pour vous, elle en lit un extrait pour donner un petit peu le contexte. La grand-mère de la narratrice vient de mourir, donc la grand-mère d'Olivia. Elle hérite de sa commode qui l'a tant fait fantasmer quand elle était enfant.
Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'une heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirée comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroir, les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournées, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore.
Les petites clés d'Olivia Ruiz, elle ne chante pas du tout, Michel-Édouard Leclerc.
Non, elle ne chante pas, mais elle écrit admirablement bien.
Et je vous pose la question, parce qu'il y a également de la musique. Vous avez la programmation en tête ou alors sous les yeux? Parce qu'il y a aussi de la musique, des musiciens. Et question, après avoir dit la programmation, dans quelles conditions, plutôt d'abord, les artistes ont-ils joué?
Alors, ils ont joué Il y en a qui ont l'habitude quand même aussi d'enregistrer, hein, comme ouais. Alain Souchon, comme Jean-Louis Aubert. Je parle de concerts, là, mmh. Ils ont joué ben, un petit peu comme vous, vous le faites aussi avec des techniciens. Devant des techniciens, il n'y avait pas grand monde dans le théâtre. Hein, ouais. C'est sûr que chaque siège était nettoyé, tout ça, mais il n'y avait pas grand monde, donc c'est beaucoup d'abnégation de leur part. Et donc dans les artistes en musique, on a Tété, on a ouais. Ours, on a Lucienne Renaudin, Baptiste Hamon, Camille et Julie Berthollet, on ouais. a Barbara Carlotti. Et là c'est pareil un petit peu pour les séances de lecture, ils jouent, ils chantent, quelquefois aussi en réaction avec un public par interaction sur le site. Il y a Malik Djoudi, il y a Bertrand Belin. Mmh. Il y a Trio, et donc c'est une atmosphère, il y a 26 concerts, ouais. il y a 26 lectures, on n'a pas fait exprès, et à chaque fois, bon, on essaye d'être au plus près du public, de chacun d'entre nous, évidemment c'est pas dans les conditions du direct, c'est du podcast, voilà, le festival vit, et puis il y a un lien avec ouais. tout ça.
Alors, je voudrais qu'on entende le groupe Trio, qui a déjà vendu 4 millions d'exemplaires, 6 albums, c'est eux qui ouvre le bal, parce que je vais expliquer après qu'il y a des jours, ils sont quatre oui. à jouer, mais on les voit en mosaïque, parfois ils sont quatre, parfois ils sont six, c'est un vrai groupe, mais chacun est chez soi. On va entendre un extrait, d'ailleurs c'est plus qu'un extrait, c'est le démarrage de ce concert privé.
Salut à toutes, salut à tous, merci d'être là avec nous. On pourrait dire finalement que le confinement n'a pas eu raison du Festival Culturissimo, parce que voilà, nous sommes avec vous quand même ce soir, et c'est vous qui avez choisi les quatre titres que nous allons interpréter. On vous remercie d'avoir été si nombreux. Comment ça va les gars?
Alors,
on va commencer par un morceau festif, ça fait réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur, marche vite, pas le macadam, a besoin d'un demi-train. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur, ça va les gars, bien dormi, pas de réponse, tant pis.
Ça, c'était Trio, et quand même, programmation là aussi assez époustouflante. Le final est très fort. Le 8 juin, ce sera Alain Souchon. Le 12, Jean-Louis Aubert. Comment vous avez réussi à les convaincre? Vous leur avez promis de bien mettre leurs albums bien en évidence, en tête de gondole, un peu partout en France, dans les Leclerc?
Ah ben bien sûr, on va mettre le paquet, et notamment pour les remercier. Mais j'insiste, je pense que ils ne l'ont pas fait mu simplement par un intérêt commercial, et c'est un marchand qui le dit. Ouais. Non, je crois que ça leur a bien plu. D'abord, c'est une expérience. Les conditions d'enregistrement étaient rocambolesques, mais c'est bon, ça collait aussi pas mal avec leur tournée. Ils ont dû abandonner leur tournée, donc ils ont essayé aussi de continuer à faire vivre leur projet comme cela. Je crois que c'était important ouais. pour eux. Hein. Et puis cette idée aussi de répondre aux internautes par les réseaux sociaux et de choisir 3, 4, 5 morceaux pour faire plaisir, c'est sympa.
Question à vous Michel Leclerc, à l'amoureux des livres que vous êtes, et pas seulement de la BD. Le déconfinement, je vous apprends rien, c'est depuis le 11 mai. Les 220 espaces culturels sont un acteur important pour la culture en France, notamment pour la vente de livres. Les maisons d'édition sont ressorties bien cabossées de ces deux mois de confinement. Certaines redoutent de mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous allez mener dans vos magasins des actions spécifiques pour les livres dans vos enseignes?
Alors oui, mais d'abord, je veux vous dire que ça repart très très bien pour la librairie. On a l'impression que tout le monde a envie, après avoir mangé des pâtes et du riz, on a l'impression que tout le monde a envie...
Et du papier toilette.
Oui, ça on le mange pas, mais ils ont envie d'achat de livres. Et donc, mais que ce soit les librairies indépendantes ou que ce soit les chaînes comme les nôtres, comme les espaces culturels, ça marche très fort. La rentrée littéraire qui a été assez chaotique, mais tout le monde a entendu quand même beaucoup parler. C'est vrai qu'on est resté confiné devant nos postes de télé ou devant, ouais. on a regardé les informations en ligne. Et alors autrement, donc il y a la rentrée littéraire qui se prépare avec des catalogues. Là, on est en bonne organisation avec tous nos libraires. Et puis cet été, évidemment, les éditeurs ont conçu des vidéos, ont conçu des supports qui vont nous permettre, dans les espaces culturels, de mettre très en avant tous les romans qui ont été comme ça arrêtés dans leur élan, arrêtés dans leur sortie. On va booster ça cet été.
Tant mieux. Et sans parler de tous les romans qui arrivent, notamment pour l'été. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Je rappelle, le festival Culturissimo, alias Culturissimo chez vous, c'est très facile. C'est sur le site www.culture.leclerc. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture
Merci
Média
Philippe.
Qui
Merci.
Continue
Merci
dans un instant.
L'équipe.
Notre premier indispensable du jour, ça va plaire aussi à Michel-Édouard Leclerc. Un comics avec Clément Le Saffre, direction Gotham, la ville de Batman, mais pour découvrir un autre héros. Mais qui? À tout de suite.
Culture Média.
Philippe Vandel.
Premier indispensable du jour en compagnie de Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui Clément, vous nous recommandez un comics, une BD de super-héros. La semaine dernière c'était Spider-Man. À qui le tour cette fois?
Eh bien je vous emmène à Gotham, la ville de Batman évidemment. On dépeint souvent le Chevalier Noir comme un justicier solitaire et pourtant, mais il a beaucoup d'alliés et notamment un bras droit, Dick Grayson alias Nightwing. Alors c'est pas un héros très connu mais il mérite de l'être et ça tombe bien puisque Urban Comics a publié pendant le confinement une intégrale dédiée à Nightwing.
Alors vous dites pas très connu, mais pour moi il est totalement inconnu parce que j'ai jamais entendu parler de ce Nightwing.
Eh ben, détrompez-vous Philippe, en fait Nightwing c'est Robin, et plus précisément Dick Grayson c'est Robin. C'est lui qui formait le dynamique duo qu'on retrouvait dans la série Batman culte des années 60. Dick Grayson, il a grandi dans un cirque, ses parents étaient trapézistes, mais ils se sont fait assassiner par un mafieux quand il était enfant. Après le drame, il est recueilli par le milliardaire Bruce Wayne, alias Batman. Il entraîne Dick dans la Batcave, qui devient vite son acolyte et prend le surnom de Robin. On y arrive. Sauf qu'en grandissant, eh bien Robin, il en a eu marre d'être juste le partenaire sympathique de Batman. Il s'est donc émancipé et il a endossé un nouveau costume, son costume, celui de Nightwing. Donc on y arrive. Cette transformation, on l'a vu au cinéma. D'ailleurs, c'était dans le kitschissime Batman et Robin, le film de Joel Schumacher sorti en 97. Sauf que Dick Grayson, il changeait de costume, mais il gardait son sobriquet. Il s'appelait toujours Robin.
J'aurais pu réussir ce saut. Ou bien éclabousser de cervelle toute la façade de ce bâtiment. Au trapèze volant, les Grayson faisaient équipe. Il fallait qu'on se fasse confiance mutuellement, c'est le béaba quand on est équipier. Je dirais même que c'est en s'en remettant aux autres qu'on peut gagner.
Tu n'étais pas concentré, tu pensais uniquement à Poison Ivy.
C'est surtout que tu ne supportes pas qu'elle m'ait préféré à toi. C'est comme ça que tu vois l'amitié, pas vrai Bruce? Tu es chez toi, tu donnes les ordres, on marche au pas ou on s'en va. C'est Batman et Robin, pas Robin et Batman. Y en a marre, t'entends? J'ai pas besoin de ton aide, je me lance en solo.
Alors j'ai revu ce film hier, Batman et Robin, et je peux vous dire que ça fait mal aux yeux, hein. C'est terriblement mauvais, mais c'est la seule apparition de Nightwing au cinéma, et en plus il n'a même pas ce nom-là, c'est-à-dire qu'on le voit sans vraiment le voir, donc c'est une apparition à moitié officielle, et c'est un peu tout le malheur de ce super-héros, pas assez différent de Batman pour exister seul au cinéma, en même temps trop complexe pour n'être qu'un personnage secondaire, mais ça devrait changer, puisqu'un film Nightwing, uniquement dédié à Nightwing, est en production en ce moment même, et il pourrait sortir en 2022.
En attendant le film, Clément, il y a donc les comics avec cette intégrale que vous avez apportée.
Oui, absolument, c'est le format parfait pour découvrir qui est Nightwing, un acrobate urbain surdoué des arts martiaux avec un costume rouge et noir high-tech assez classe, il a été fabriqué par Batman, ça aide. Clairement, si vous aimez Batman, vous allez aimer Nightwing, car leurs aventures sont très similaires, mélange d'enquête et de combat assez bien chorégraphié, mais là où Batman se désespère de la noirceur et de la corruption qui ronge Gotham, ce personnage assez sombre, Nightwing, lui, il est plutôt optimiste. Hein. Lui aussi, il affronte le mal en permanence, mais il pense que Gotham peut changer, peut devenir une ville lumineuse. Il est un peu naïf, le garçon. Avec son costume, c'est un bon blagueur qui n'hésite pas à se moquer de ses adversaires et à la ville. À Dick Grayson, c'est un beau gosse, un charmeur qui est vraiment très attachant comme personnage. Tout ça, eh bien, on le découvre dans cette intégrale Nightwing. C'est un ensemble de récits qui sont parus il y a quelques années et qui sont spécialement destinés à des gens qui ne connaissent pas le personnage. Ils ont refait en fait toute son histoire de A à Z. Donc, et l'auteur Kyle Higgins nous prend par la main. L'histoire est très facile à suivre, c'est très bien construit. Donc si vous en avez marre de Batman, Nightwing, eh bien c'est une très bonne alternative. C'est chez Urban Comics.
J'allais vous demander ça. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Dans un instant, on place au deuxième indispensable du jour avec Margot Barallon.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le second indispensable du jour avec Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous conseillez une mini-série qui vient de sortir sur la plateforme OCS.
Oui, c'est 6 épisodes seulement et 6 épisodes absolument magnifiques, hein, je vous préviens. Ça s'appelle I Know This Much Is True et l'histoire, elle est à la fois assez simple et compliquée à résumer. Nous sommes au début des années 1990 aux États-Unis. Le personnage principal, c'est un homme d'une petite quarantaine d'années, Dominique, et il a un frère jumeau, Thomas, le problème étant que Thomas est schizophrène. Et alors au début de la série, Thomas va commettre un acte d'une violence assez insoutenable en s'automutilant en fait pendant une crise de schizophrénie. Et à partir de là, Dominique va tout faire pour lui éviter de terminer dans un hôpital psychiatrique haute sécurité parce qu'il sait que ce n'est absolument pas l'endroit approprié pour son frère.
Listen to me. My brother doesn't belong here. It's like putting a bunny rabbit in a pack of wolves. He's not going to survive here.
Voilà, il n'a rien à faire ici, c'est comme mettre un lapin au milieu d'une meute de loups. Voilà ce que Dominique explique à l'avocate de Thomas.
Donc c'est d'abord l'histoire d'un combat judiciaire, c'est ça?
Eh ben non, pas du tout. C'est là que je vous disais que c'était un peu dur à résumer. En fait, l'intérêt de la série, ça va plutôt être de raconter l'histoire de ces deux frères. et on s'aperçoit très vite que ça ressemble à une tragédie grecque. Vous savez, dans les tragédies grecques, vous avez toutes ces familles maudites sur des générations et des générations. Et bien là, c'est pareil. Les grands-parents de Dominique et Thomas étaient des immigrés italiens auxquels il n'arrive que des trucs horribles. Leur mère a ensuite énormément souffert et Dominique, à son tour, doit soutenir son frère, s'occuper de lui. Il le dit souvent, hein, c'est sa malédiction. Ça l'empêche de vivre normalement et c'est une source de disputes constantes avec sa petite amie.
Tu sais ce que j'aimerais vraiment ? J'aimerais que tu t'occupes de moi comme tu t'occupes de lui. Ce serait vraiment une belle surprise que mon copain s'occupe de moi. Mais ça n'arrivera pas parce que je ne suis pas folle.
Ça se discute.
Fuck you.
Wow, fuck you, ça a l'air très très sombre comme série.
Alors, c'est sûr hein, que c'est pas la comédie de printemps qui va vous changer les idées, mais ce qui est génial, c'est que ça n'a rien de sordide. C'est tellement beau que ça en devient lumineux. C'est comme si la résilience de tous ces personnages malheureux devenait poétique et transformait en fait la tristesse en douceur. Bah, c'est un peu la spécialité du réalisateur de la série qui s'appelle Derek Cianfrance. On lui doit notamment les films Blue Valentine ou The Place Beyond the Pines qui fonctionnaient, si vous les avez vus, sur le même principe. Et dans I Know This Much Is True, on va être peu à peu happé par l'atmosphère, avec des scènes presque oniriques parfois et une musique soigneusement choisie. Voilà, ça c'est un titre de Beach House qui s'appelle On the Sea.
Mais juste une chose, la résilience, elle apparaît tout de suite ou on s'en rend compte au dernier épisode ?
Non, c'est tout de suite.
Alors, il y a une dernière chose dont vous n'avez pas parlé, Margot, c'est les acteurs. Parce que j'imagine que si c'est des frères jumeaux, parfaits jumeaux, ils l'ont fait jouer au même acteur.
Oui, et c'est l'Américain Mark Ruffalo qui s'en charge. Et on ne va pas se mentir, une bonne partie de la réussite de la série repose sur ses épaules. Le problème des comédiens qui jouent des personnages atteints de troubles mentaux, c'est que souvent ils en font trop. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. Mark Ruffalo, il a d'ailleurs expliqué que ce qu'il voulait, c'était pas jouer la folie, mais bien trouver la personnalité de Thomas derrière son handicap, et ça c'est très réussi. Et en fait, la série, elle a été filmée en deux fois. D'abord, Mark Ruffalo, il a tout tourné en étant Dominique, et puis pendant 6 semaines, ils se sont arrêtés. Lui, il a pris beaucoup de poids, il s'est mis dans l'état d'esprit de Thomas, et tout a été intégralement refait dans le rôle de Thomas. Et ça, c'est vraiment malin, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux qui ont permis un dédoublement de l'acteur. C'est très artisanal, mais ça fonctionne. Et puis, il faut aussi mentionner que tous les seconds rôles sont parfaits aussi, notamment les très nombreux seconds rôles féminins.
C'est à voir sur OCS. Margot Barallon, vous nous redites le titre parce que moi j'en serais incapable.
I know this much is true.
I know que vous sauriez le faire. Merci beaucoup, à très vite. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 9h30. Nous serons avec Ophélie Meunier pour le retour de son émission Zone Interdite sur M6 et puis avec Akhenaton du groupe IAM pour leur concert privé diffusé sur Arte. Tout de suite.